Bonjour et bienvenue. Si vous vous installez dans la salle des archives du rire aujourd'hui, vous allez constater que les fauteuils sont rouges et que la salle est incroyable. Je vous emmène dans l'un des plus magnifiques music-halls, dans celui qui a fait rêver tant d'artistes. Au 28 du boulevard des Capucines à Paris se dresse l'Olympia. Et s'il est vrai que ce lieu est surtout connu pour ses concerts mythiques dans le monde du jazz et de la chanson, on l'entendra notamment avec Gilbert Bécaud, il ne faut pas oublier que l'humour a aussi sa place à l'Olympia. Rencontre aujourd'hui surtout avec Jean-Michel Boris, le neveu de Bruno Cocatrix et directeur de l'Olympia pendant plus de 40 ans jusqu'au début des années 2000. J'ai le bonheur de rencontrer Jean-Michel Boris le 14 novembre 1997. La date n'est pas anodine. Le soir d'avant, Gilbert Bécaud inaugurait la réouverture de l'Olympia qui a complètement été rénovée.
Tu cherches ce fauteuil que tu ne trouves pas. Moi j'ai peur de la peur qui m'attend à deux pas. Tu commences à sortir de ta vie quotidienne. Moi je ne pense plus, je suis déjà sur scène.
10 minutes.
Oui monsieur. Les lumières s'estompent et tombe la rumeur. Deux mondes se rejoignent avec un même cœur. Régisseur cigarette, le petit coup de rhum. Moi je n'existe plus, je ne suis plus un homme. Je crie la vie comme une dernière heure. Et je vis la vie comme on rêve d'ailleurs. Et je ris la vie pour oublier qu'elle pleure. Et je prie la vie pour un monde meilleur. Je le prends dans mes bras. Il est à moi, l'Olympia.
Le lendemain de ce concert magique, 30e passage de Gilbert Bécaud à l'Olympia, Jean-Michel Boris me parlait de ce qu'il avait ressenti quelques heures auparavant.
C'est évident que ça, c'est une soirée comme on en vit une fois dans sa vie. Cette soirée de réouverture de cet Olympia auquel je suis tant attaché, il est évident que je l'attendais avec impatience et avec inquiétude. Alors, il est évident que cette soirée chargée d'émotions, ma foi, elle s'est remarquablement passée. Je peux dire que c'était extraordinaire et que je l'ai vécu d'une manière assez fatigante et que mes nerfs ont un peu craqué à la fin du spectacle parce que, j'en attendais beaucoup de cette soirée et que j'ai eu tout ce que j'attendais.
Le théâtre fantôme n'est plus que 4 murs. Une planète vide, un voilier sans voilure. Le son était trop fort, le bleu beaucoup trop bleu. Il fait beau cette nuit, je suis un homme heureux.
Attention,
ça va. Oui, monsieur.
J'avais pas le trac, j'avais le stress. Le stress, c'est-à-dire que j'étais vraiment inquiet, perplexe. Est-ce que le public va trouver la salle comme je la trouve merveilleuse? Est-ce que l'artiste va pouvoir se réaliser sur scène et faire vraiment une prestation remarquable? Est-ce que tout va fonctionner sans... Est-ce qu'il ne va pas y avoir des impondérables qui vont venir tout d'un coup bouleverser les données? Enfin, oui, il y a plein de choses, plein d'éléments qui faisaient que je n'avais pas le trac, mais j'avais le stress.
Dans mes bras, il est à nous, l'Olympia.
Même si on est aujourd'hui dans les archives du rire, je ne pouvais pas passer à côté de cet entretien que m'avait accordé Gilbert Bécaud. Il a passé plus de 30 fois dans cette salle mythique et le nom de Bécaud est vraiment indissociable de celui de l'Olympia. Il était là, sur scène, à l'ouverture de l'Olympia en 1954 et encore Gilbert Bécaud lors de la réouverture en 1997.
Je crois que j'ai fait toutes les ouvertures depuis que c'est un cinéma. C'est vrai.
Mais pour vous, c'est une salle magique. Vous m'expliquiez juste avant que vous étiez avec les architectes parce que vous aviez un peu peur de ce nouvel Olympia. Peur du son, peur de ce mythe. Vous aviez souci qu'on casse le mythe.
Je ne voulais pas qu'on en casse l'âme. Parce que vous savez, c'est... Les théâtres, c'est un peu comme les églises. Il y a des églises où vous priez content de le faire, et les églises où vous n'avez pas du tout envie de prier, vous pensez à autre chose. Et l'Olympia est une très bonne église pour chanter.
Les archives du rire.
Jean-Michel Boris parle de sa rencontre avec son oncle Bruno Cocatrix à Paris, alors directeur de l'Olympia, dans ce livre qu'il coécrit avec Marie-Ange Guillaume, 28 Boulevard des Capucines, aux éditions de l'Acropole, la fabuleuse aventure de l'Olympia. En été 1954, tout a changé. Je suis monté à Paris où je devais passer les vacances avec mon père, mais ce dernier était trop débordé pour s'occuper de moi. Et j'ai peu à peu émigré chez Bruno et Paulette. Paulette, la sœur de mon père. De Bordeaux, j'avais vaguement entendu parler de ce cinéma du boulevard des Capucines que mon oncle venait de reprendre, mais rien de plus. Bruno me connaissait déjà, bien sûr, mais je n'étais qu'un gamin pour lui. Il m'a raconté à quel point ce métier était passionnant. Il m'a parlé comme un fils. Il faut rappeler que Bruno Cocatrix avait perdu un enfant à 16 mois et demi. Et moi, j'ai très vite considéré Bruno Cocatrix comme mon père. Je ne suis jamais revenu de ces vacances de l'été 54, dit Jean-Michel Boris dans son livre. Je suis juste redescendu à Bordeaux, expliquer à ma mère que je croyais plus raisonnable de commencer à gagner ma vie tout de suite, plutôt que de tirer 8 interminables années de médecine. Et le 5 novembre 1954, j'ai repris le train pour Paris et je suis entré à l'Olympia pour de bon, avec ma petite valise et une totale ignorance du métier.
L'Olympia ne serait pas l'Olympia sans Bruno Cocatrix, bien sûr. Il était votre oncle, mais vous dites avant tout qu'il était votre père.
Tout à fait, c'est mon père spirituel et lorsque j'ai enterré mon père, mon géniteur, eh bien, ça m'a fait déjà beaucoup de mal. Et lorsque j'ai participé à l'enterrement de Bruno, il s'est trouvé que Bruno était dans la même tombe que mon père. Donc dans le même tombeau se trouvent mon père spirituel et mon père charnel. Et c'est vrai que cet homme-là a énormément compté dans ma vie.
Bruno Cocatrix était un artiste aussi, puisqu'il a signé entre autres Clopin Clopin avec un Suisse, Pierre Dudan d'ailleurs. Est-ce que le fait que Bruno Cocatrix soit artiste, ça l'a aidé à donner cette âme qu'on connaît aujourd'hui dans l'Olympia?
Ah, complètement, complètement. Si Bruno Cocatrix n'avait pas été l'homme qu'il était, c'est-à-dire un auteur, un compositeur, et puis un technicien du spectacle, c'est évident que l'Olympia ne serait jamais arrivé au niveau où il est actuellement. Nous n'avons fait que nous mettre dans ses chaussures, d'enchaîner, mais il est évident que Bruno aurait été un simple fonctionnaire, ou l'Olympia n'aurait jamais eu cette envergure. En plus, c'est un homme qui aimait l'aventure, qui aimait les paris, qui aimait le jeu, et donc il a joué sa vie à qui perd gagne à chaque fois qu'il a travaillé sur le problème de l'Olympia. Donc, s'il n'avait pas été comme ça un grand seigneur et un personnage jouant son va-tout, il est évident que l'Olympia ne serait pas ce qu'il est.
À l'entrée de l'Olympia, il y a la photo de Bruno Cocatrix. C'est une photo passeport à la base. Est-ce que tous les jours vous la regardez différemment, cette photo, Jean-Michel Boris?
Je regarde, il a un petit sourire en coin et je regarde si ce sourire s'agrandit tous les jours. s'il est heureux de voir ce qu'on a fait. C'est, pour moi, c'est quand même fondamental d'être dans le droit fil de ce qu'il avait décidé et ce qu'il avait souhaité. Et je crois que jusqu'à présent, ça a l'air d'être à peu près comme s'il faut.
En 1976, il y a un jeune imitateur qui fait sa rentrée à l'Olympia. Il a 24 ans, il s'appelle Thierry Leluron. Et c'est ainsi qu'il est présenté dans le journal d'Yves Mourouzi sur TF1.
Nous allons parler de l'actualité théâtrale, musicale et de la chanson. Si je mélange les trois, c'est parce que le personnage dont nous allons parler les mélange. Il fait sa rentrée ce soir à l'Olympia dans un grand spectacle. Nous allons le retrouver. Vous le retrouverez également en province très bientôt. Thierry Leluron.
Son nom monte aujourd'hui tout en haut de l'affiche à l'Olympia. Après 3 ans d'absence, Thierry Leluron a mitonné pour les fêtes un spectacle souriant qui ne ressemble à aucun autre. Cet imitateur corrosif, 24 ans, lance le coup d'envoi de la campagne électorale.
Juste un thromboscope en haut, par exemple, à ce moment-là.
Michel, tu as réussi. Et Michel Poniatowski est devenu plus tard le premier loubard de la bande à Giscard.
Quel va être le Thierry Leluron 76 que nous allons découvrir, quelle va être cette fameuse cuvée?
Ça devrait être la meilleure cuvée, puisque c'est une cuvée faite d'expérience, de mûrissement, et puis disons de beaucoup de travail, parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette rentrée à l'Olympia.
Thierry Leluron fait son premier passage à l'Olympia en 1971. Il vient d'être découvert par Paul Lederman, et en 71 sort son premier album à l'Olympia. Son œil est vif, le ton mordant, la bouche malicieuse, le personnage tout entier est pétillant, sympathique, irrésistible. Il s'appelle de son vrai nom Thierry Leluron, il a tout juste 18 ans et s'inscrit parmi les artistes les plus doués de sa génération. Son don numéro 1, c'est l'imitation. Il ne devient pas, il est tour à tour Jean Nohain, Salvatore Adamo, Darry Cole, Dalida, Johnny Hallyday ou Charles Aznavour par exemple. C'est comme ça que l'on présentait Thierry Leluron en 1971.
Les archives du rire.
De tous les cabotins, je suis vraiment l'empereur, Aznavour en premier. Comme lui, j'ai eu faim, j'ai fait chanter ma sœur, j'en ai la voix fêlée. Si ma main tremble encore, ce n'est pas de la peur, ça vient d'une tournée. Fut un hôtel d'enfleur qui n'était pas chauffé. Aujourd'hui c'est mon Austerlitz, tous les soleils brillent pour moi. J'ai de quoi me payer le rite, et je n'aurai plus jamais froid. Si les ennemis m'environnent, j'en ai toujours, ce serait trop beau. Je me ressouviens de Cambronne et je m'en vais dire un mot. Je suis un cabochard et sortirai vainqueur de toutes les mornes pleines. Je suis un cabotin, mais mieux que l'autre empereur, je ne veux pas de Saint-Hélène.
En 1992, je rencontre Robert Castel à Montreux. Il donnait un extrait de son spectacle avec son personnage Kawito. Nous l'avions déjà entendu dans l'émission consacrée au duo. Ici, Robert Castel nous parle d'une audition passée devant Bruno Cocatrix, dans un Olympia complètement vide.
Je vais rendre un petit hommage à un monsieur du music-hall qui s'appelait Bruno Cocatrix. Et nous faisons une audition devant lui, dans l'Olympia, où 2300 personnes, vide. Lucette et moi, vide. On lui passe un sketch. Et il nous dit l'Olympia vide, hein, que lui, hein, lui et son neveu Jean-Michel Boris. Et il nous dit écoutez, moi ça me fait pas rire. Mais il dit c'est pas sûr que j'ai raison. C'est le public qui va décider, parce que c'est trop injuste que moi je dise moi ça me fait pas. Il me dit vous voulez passer ce soir dans le programme de Colette Renard le soir même. J'ai dit, ce soir on passe dans le programme de M. Cocatrix. On est passé dans le programme. Il nous a engagés ce soir-là et on est resté un an, 12 mois à l'Olympia. On a fait un musicorama avec Frank Sinatra, présenté par Fernand Reynaud, qui nous présentait. Et Frank Sinatra était présenté par Charles Aznavour. Voilà, voilà une anecdote. Elle n'est pas très drôle, mais elle est chère à mon cœur.
C'est ici qu'on vient pour déclarer ses revenus.
Vous avez des revenus, vous? De quoi je me mêle, dit? Moi, que ça fait 10 ans que je travaille, je suis raide comme un passe-lacé. Et ici, le premier qui s'amène, il déclare ses revenus. En avant.
Grâce à Dieu, hein, mon père, il est au placé. Si vous voyez la maison qu'on a, 2 pièces, une cuisine, un demi-balcon, la télévision...
Si c'est pour déclarer ça, faut y aller aux arts ménagers. Hein. Ici, c'est les impôts directs. Et puis en même temps, on fait les indirects, de temps en temps.
Eh bien, justement, c'est pour ça que je suis venue.
Alors, fallait le dire tout de suite. Vous avez rempli votre feuille?
Bien sûr que je l'ai rempli. Mais je voudrais voir l'inspecteur en particulier.
Non.
Parce que c'est le parrain du fils à ma belle-sœur.
Non, il n'y a pas de piston, là. Tiens, c'est ma belle-sœur. Faut que tout y passe par moi. Je contrôle, moi.
Oh, qu'est-ce que vous êtes, vous?
Que je suis? Je suis planton contrôleur, non? Je connais mon métier, non? Alors, donnez-moi votre feuille.
Voilà.
Bon, d'abord, je vais vous demander des renseignements pour faire une fiche individuelle par personne pour vous. Alors, comment c'est que vous vous appelez?
Marilyn.
Comment?
Marilyn.
Vous appelez Marilyn, vous? Alors moi, je m'appelle Grégory Peck, alors.
Tiens. Vous dites que pour vous, il y a 2 phénomènes qui ont marqué l'Olympia, le jazz et les musicoramas d'Europe 1. C'est vrai que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel, dont vous gardez aujourd'hui encore un exceptionnel souvenir?
Tout à fait, les musicoramas ont été vraiment, et l'association avec Europe numéro 1 pendant je ne sais combien d'années, a été une chose extrêmement importante.
Jean-Michel Boris nous parle de l'Olympia dans les archives du rire.
Ça a apporté justement à l'Olympia ce côté international, et puis il s'est passé tellement d'événements avec les vedettes du monde entier à travers ces musicoramas, auxquels nous étions complètement unis, qu'il est évident que ça a apporté énormément à la vie de l'Olympia et à son renom.
Vous dites que le musicorama qui vous a le plus marqué est celui de Fernandel.
Non, il ne m'a pas plus marqué, mais c'est vrai que c'était un événement, parce que, soyons clairs, Fernandel est un personnage que je découvrais, moi, à travers les films, et tout d'un coup, de le voir en scène, il est évident que c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est un des grands piliers du cinéma français, de même que si j'avais eu la chance de voir Gabin, à un moment donné, sur scène, chanter, comme il était capable de le faire, ben, ça m'aurait fait aussi un énorme plaisir, parce que c'est quand même des moments exceptionnels et rares.
Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une brosse de cloche. Félicie aussi. À fin de cette heure, la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon gridé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle empaumait l'échalote. Félicie aussi. Une poire et des gaufrettes, comme la poire et des blettes. Félicie aussi. La ramonie tourne la tête.
Les archives du rire.
Michel Leeb parle de son premier passage à l'Olympia en 1976 dans son livre « Ma valise en croco » sorti en 84 aux éditions Michel Lafon. Décembre 76, à l'affiche de l'Olympia, Julio Iglesias en vedette, Georgette Lemaire en vedette américaine et Michel Leeb en anglaise. Enfin, il passait à l'Olympia, il était fou de joie. La veille du premier jour du spectacle, le directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris, convoque Michel Leeb dans son bureau. Vous êtes en anglaise du spectacle, mais comme nous n'avons pas de présentateur, c'est vous qui allez présenter toute la soirée. Oh non, Michel Leeb n'est pas tellement d'accord parce qu'il a envie de présenter ses sketchs et non pas de devenir présentateur pour une soirée. Jean-Michel Boris lui répond tout simplement, écoutez, c'est ça ou c'est rien. Faut avouer que Jean-Michel Boris n'aimait pas tellement les sketchs de Michel Leeb. Il ne le faisait tout simplement pas rire. Il ne connaissait que partiellement mon répertoire et ce que j'avais dévoilé au cours des répétitions. Mais vous ne pouvez pas l'enthousiasmer puisque je faisais simplement une mise en place avec mon pianiste. Quoi qu'il en soit, en cette soirée de décembre 1976, Michel Leeb va non seulement présenter toute la soirée, mais présenter également ses sketchs. Cette façon de travailler satisfait guère Michel Leeb, mais finalement ça a apporté ses fruits puisqu'à la fin du spectacle, Jean-Michel Boris est venu le voir dans sa loge, lui serre la main et lui dit « J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait, bravo. J'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions pour vous. » 8 ans plus tard, Michel Leeb est en vedette à l'Olympia grâce à un pari que Jean-Michel Boris et Michel Leeb avaient pris, tenu et gagné ensemble.
J'ai mis 9 ans exactement à faire l'Olympia. Bon, je l'ai fait une fois, puis paf, on m'a demandé de le refaire une deuxième fois dans la même année. Ça, c'est assez exceptionnel. Bon, ça valait le coup d'attendre 9-10 ans pour le faire 2 fois dans la même année.
Rencontre avec Michel Leeb à Lausanne en 1985, où on parlait de ce rêve, celui de voir son nom en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia.
Dès que vous commencez ce métier, vous dites pas, il faut que j'aille à l'Olympia. Non, ça vient au fur et à mesure. Et là, je suis arrivé après quelques années, je vous dis, bon, j'étais très heureux de le faire. C'est une salle extrêmement difficile, très, très redoutable, parce que le public qui vient là est un public qui a tout vu, tout connu, qui est très blasé, et qu'il faut absolument surprendre. Il faut qu'à chaque fois que l'on fait quelque chose, de toute façon dans ce métier, il faut, à mon avis, créer un événement. Il faut que ce soit surprenant, il faut que ce soit étonnant.
Sur le lac du bois de Boulogne, Lucien de Batempré rame. Auréline laisse glisser vers lui un regard complice. Lucien s'arrête soudain de ramer et s'écrie « Ok, mon amour !» Est-ce là la première fois que vous aimez Auréline.
Oui.
Oui. Lucien.
Ok.
C'est merveilleux. Je souhaite que ce soit la dernière fois. Alors là, si elle n'a pas compris le message, à Louise, hein. Un grand silence s'installe. En un instant, Lucien est auprès d'Auréline. Il la prend dans ses bras. Il l'embrasse. Il la caresse. C'est pas... Excuse. J'extrapole. Voilà. Elle. De grâce. Quel est cet amour? Lui. Mais Dieu, cet amour, c'est ma vie, c'est ma force, c'est ma raison d'être. Là. À ces mots, Auréline se lève. Et dans la fureur de leurs élans, le chanoé cavire, le canoë chavire, emportant les amants lassés dans l'onde néfaste. Merci.
Oui. Michel Leeb sur la scène de l'Olympia. Jean-Michel Boris écrit en préambule dans son livre 28 Boulevard des Capucines, la fabuleuse histoire de l'Olympia aux éditions de l'Acropole. L'Olympia, c'est plus de 40 ans de ma vie. C'est ma planète, c'est mes amis, mes amours, mes emmerdes, comme le dit si joliment le chanteur. Je connais par cœur ce labyrinthe de coulisses, de loges, de machinerie et de greniers. Je me promène dans ce dédale comme en ma propre mémoire, avec mon lot de poussière et de paillettes, d'images éparpillées. Depuis ce jour de novembre 1954 où mon oncle Bruno Cocatrix m'a fait enfiler un bleu de travail, je suis passé par tous les grades de moussaillon à capitaine. J'ai tout appris sur le tas, les éclairages, la comptabilité, la régie. Je suis devenu directeur de l'Olympia en 1959. C'était une période noire, tout le monde avait fui. Bruno Cocatrix était pratiquement seul. Devenir directeur était dans ces circonstances à peu près aussi glorieux que de monter en grade dans l'armée mexicaine. Rencontre avec Jean-Michel Boris dans les bureaux de l'Olympia, c'était en 1997, le 14 novembre.
Les archives du rire.
Pour un artiste, une des choses les plus exceptionnelles, c'est de voir son nom en lettres de feu sur la façade de l'Olympia. Et vous, de votre côté, il y a forcément les coulisses du spectacle, puisque les artistes qui viennent ici à l'Olympia sont, comme vous le dites souvent, plus que des artistes, ce sont des amis.
Bah oui, ce sont des gens, c'est pas des amis, ce sont des gens que je respecte infiniment, que j'admire. Bon, il arrive que j'ai des affections, des amitiés pour certains, pas automatiquement, ça dépend aussi du personnage, mais de toute façon, il faut que ce métier se pratique avec un relationnel entre la direction et l'artiste, qui soit le plus amical possible. Un artiste ne peut pas venir faire une prestation sur scène s'il n'a pas... s'il n'est pas heureux sur cette scène, s'il n'est pas heureux en sortant de cette scène. Bon, ben le bonheur d'être sur la scène lui est fourni par les réactions du public. Le bonheur d'être dans les coulisses, c'est quand même lui est fourni par la direction qui le reçoit, qui essaye qu'il se sente bien chez lui.
Pour ses 30 ans de scène et de spectacle, Patrick Sébastien monte sur la scène de l'Olympia avec des sketchs et des chansons, notamment celle-ci au milieu de l'arène qui rappelle la condition de l'artiste, l'artiste qui est seul sur scène face au public, qu'il soit comédien, saltimbanque, chanteur ou comique. Patrick Sébastien sur la scène de l'Olympia.
Au nom de tous les miens, comédien, saltimbanque, acteur et musicien, torero de bonheur qui font la mise amour au milieu de la scène, au nom de tous les miens ce soir, je rentre dans l'arène. Je descends faire le clown, le minable ou le singe. Je viens pour vous toucher ou pour vous provoquer, vous raconter ma vie, la vôtre et faire rimer amour avec toujours vos chagrins et les miens. Mais je viens là surtout pour vous donner de moi le plus profond, le vrai, mes angoisses et mes joies. Alors que sonnent les trompettes, c'est pour dire je vous aime, que je plante mon cœur au milieu de l'arène. Bonjour messieurs les gens. Salut bel inconnu, tu sais, j'en ai bavé. On m'a craché dessus, il m'a fallu du temps pour en arriver là. J'ai connu tant de hauts et suis tombé si bas, des bravos par milliers, des soirées de gala et puis des solitudes et des tas de pourquoi seul face aux picadors, aux assassins bien-nés pour qui faire le pantin est une absurdité. Est-ce que c'est un bonheur? Est-ce que c'est une fuite? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à courir aussi vite? Nous, les faiseurs de rêves, les marchands d'illusions qui ne se montrent en vrai que derrière un faux nom.
Voilà. Le 99% des vedettes sont passées à l'Olympia. Est-ce que dans la carrière d'une vedette, l'Olympia est un passage obligé?
Vous savez, je suis mal placé pour le dire, parce que bon, ça va finir par passer pour de la prétention, mais je crois qu'effectivement, le passage à l'Olympia est un passage obligé qui permet à un artiste de devenir une plus grande vedette, de grandir dans le firmament et d'arriver au point le plus élevé.
C'est la fin de cette émission consacrée aujourd'hui à l'Olympia, 28 boulevard des Capucines à Paris, avec une très très belle rencontre en 1997 avec Jean-Michel Boris, avec également dans cette émission... Gilbert Bécaud, Michel Leeb, Robert Castel, toutes ces rencontres ont eu lieu à Fribourg, à Paris, à Lausanne et à Montreux entre 1985 et 1997. Il y avait également un extrait avec Thierry Leluron, tiré de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Merci d'avoir partagé ces quelques moments de spectacle sur ce fauteuil rouge. Au revoir et à très bientôt.
Un éternel orage, ouais. Rire, chanter, vibrer, vous voir taper les mains. Et le plus important, le sourire des gamins. Tu sais, à l'heure de m'endormir pour mon dernier voyage, je suis sûr qu'à mes yeux, le dernier paysage sera ce vaste champ de visages inconnus. Alors merci. Merci du fond du cœur. Merci d'être...